fait pour nous jour après jour. Le remercier parce qu'il est là. Est-ce qu'on peut vraiment louer le Seigneur encore une fois ce matin? Est-ce qu'on peut frapper des mains pour le Seigneur et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous jour après jour? Je vais nous donner l'excuse que c'est la première fois qu'on entend ce chant, donc on l'a tous un petit peu découvert. Mais la prochaine fois qu'on va chanter ce chant, on doit tous... Ce chant me fait quelque chose. Il y a le rythme, il y a les paroles. Et j'espère que la prochaine fois que la chorale va chanter ce chant, on sera tous ici à l'autel en train de danser, en train de frapper des mains, en train de dire « Oui, Dieu, tu es bon. Oui, Dieu, tu es bon pour moi. Alléluia. Alléluia. » On va tourner directement dans la parole du Seigneur. Je ferai les annonces à la fin de la réunion. Et je ferai l'offrande à la fin de la réunion. Donc vous avez encore un peu de temps pour préparer vos enveloppes. On va avoir une pensée pour notre pasteur et sœur Noroy qui sont à Mons ce matin. Ils sont partis aider le pasteur Ekofo. Donc on veut garder en tête, on veut aussi prier pour eux alors que nous ici nous sommes bénis pour que notre pasteur puisse être une bénédiction là-bas à Mons. Et que Dieu puisse agir aussi au milieu d'eux. Amen. Je vais vous inviter, pour ceux qui peuvent, à vous lever et à tourner avec moi dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Au chapitre 37. Et on va lire, on va faire une longue lecture ce matin. On va commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 28. Donc Genèse, chapitre 37, verset 13 à 28. Je suis content pour chacun d'entre vous qui êtes là ce matin. Je ne sais pas si vous êtes content que moi je sois là. Ah, ça va. Moi, je suis content que vous êtes là. On est content de voir Gilles. Il ne vient pas souvent, mais on est content quand il est là. C'est plus un étranger. On est content aussi d'avoir Moïsette. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vue. Et alors, on a deux amis de Romain. Si je ne me trompe pas, c'est Michael et Champion, c'est ça? On veut leur souhaiter la bienvenue ce matin. Alléluia. Sentez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Hein. On est un peu disjoncté, mais on aime le Seigneur, donc c'est tout ce qui compte. Genèse, chapitre 37, à partir du verset 13. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben leur dit... J'étais trop vite. Ruben entendit cela et il le délivra... Ruben entendit cela, oui, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Et alors au verset 36, les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen, vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'ai pris l'histoire de Joseph. Et c'est une histoire vraiment très lourde d'enseignements. Il y a énormément de choses qu'on peut dire au sujet de l'histoire de Joseph. Et Joseph est né à son père Jacob. Quand Jacob était vieux, Jacob avait reçu la promesse de Dieu que Dieu lui donnerait un fils. Et sa femme était stérile. Et il a fallu attendre à Jacob très longtemps, jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour que lui naisse cet enfant promis par Dieu. Et Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. Probablement parce que c'était le petit dernier, on connaît on sait bien que tous les petits derniers en général sont chouchoutés, on leur laisse tout faire. Hein, ils peuvent tout faire, tout ce que leurs grands frères ou grandes sœurs n'ont pas pu faire. Alors parfois, ça crée quelques petites situations un petit peu électriques, on va dire. Hein. Et donc, Joseph avait vraiment une place particulière dans le cœur de son père. Son père aimait, Jacob aimait tous ses enfants. Mais Joseph était vraiment particulier. C'était parce que c'était le dernier et parce que c'était l'enfant que Dieu lui avait promis. Et donc Jacob faisait tout pour Joseph. Il lui avait fait confectionner une tunique de plusieurs couleurs que ses frères n'avaient pas. Il le traitait d'une manière différente que ses autres frères. Et donc tous ses frères étaient jaloux, évidemment, quand ils ont vu le traitement de faveur que recevait Joseph. Et ils ont voulu s'en débarrasser. Ils voulaient le tuer, ils voulaient s'en débarrasser parce qu'ils en avaient marre de voir leurs frères mieux traités qu'eux. Et en plus de ça, si ce n'était pas assez, voilà que Joseph commence à faire des songes, il commence à faire des rêves. Et dans ses rêves, il voit symboliquement ses frères, ses sœurs, ses parents se courber devant lui. Et donc ça a ajouté à la jalousie, à la colère de ses frères qui disaient « Non mais pour qui il se prend ? Il croit qu'on va se prosterner devant lui, qu'on va se mettre à genoux devant lui ?» Parce qu'ils ne comprenaient pas, il y avait une dimension supérieure derrière le rêve de Joseph. Et même Jacob, au premier abord, ne comprenait pas les rêves de Joseph. Et donc ses frères étaient devenus très 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 jaloux. Et donc ils voulaient absolument s'en débarrasser. Et alors que Jacob envoie Joseph, comme on l'a lu dans le passage ce matin, pour aller voir ses frères, ils étaient partis paître les troupeaux du papa. Et alors Jacob envoie Joseph pour aller voir comment ses frères vont, pour aller voir comment se porte le troupeau, pour voir si tout va bien. Et donc ses frères, comme on l'a lu ce matin, veulent d'abord le tuer, mais finalement changent d'avis et se disent « On va pas le tuer, mais on va l'envoyer tellement loin qu'on est sûr de plus jamais le revoir. » Et donc, ils le vendent aux Madianites, qui eux sont allés en Égypte. Et ces Madianites vont vendre Joseph comme esclave à Potiphar, qui est un officier de Pharaon. Et alors, si on étudie, si on continue à lire les chapitres qui suivent, on étudie la vie de Joseph, on voit que Joseph est fidèle en toutes choses. Il sert son maître de manière droite, de manière juste, de manière intègre, au point que Potiphar lui donne autorité sur toute sa maison, excepté sur sa femme. Et donc, Joseph, c'est presque comme Potiphar, sauf qu'il n'a pas la femme de Potiphar, mais il a toute l'autorité sur toute la maison de Potiphar. Mais Joseph étant bel homme, voilà que la femme Potiphar voudrait bien goûter de ce bel étalon, si je peux dire ça comme ça. Hein, Joseph était un homme beau, c'était un homme bien fait. Et donc cette femme est attirée par ce jeune homme, évidemment. Peut-être que son mari était plus vieux, peut-être qu'il était moins romantique, peut-être qu'il n'était pas aussi beau que Joseph. On peut imaginer n'importe quoi. Hein. Mais Joseph reste intègre, il reste droit. Il dit à cette femme, jour après jour, à chaque fois qu'elle lui court après, qu'elle essaye de la voir, il lui dit « Ton maître m'a expressément dit que j'ai autorité sur tout, sauf sur toi donc. » Et Joseph était aussi intègre parce que Joseph était juif, Joseph craignait Dieu. Mais cette femme a été peut-être, on va dire, un petit peu plus maligne. Et alors elle a roulé Joseph, elle l'a embobiné, et Joseph s'enfuit en laissant son vêtement près de cette femme. Elle l'a pris par surprise, et alors elle a tiré son vêtement alors que Joseph essayait de s'enfuir. Et alors elle retourne la situation, et quand son mari revient, quand Potiphar rentre ce soir-là, elle lui dit « Regarde un peu ce que ton esclave a fait, il a essayé de coucher avec moi et j'ai crié, il s'est enfui. » Et Potiphar, il n'a même pas réfléchi plus d'une seconde. Il avait confiance en Joseph, il avait, on peut imaginer, confiance en sa femme, mais c'est sa femme qui a pris le dessus. Il n'a pas pu imaginer que sa femme ait pu le tromper. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait jeter Joseph en prison. Et voilà que pour Joseph, ça recommence. Il a d'abord été dans un puits, vendu comme esclave. Il finit maître de la maison du maître. Et voilà qu'il doit recommencer parce qu'à maintenant, il est de nouveau en prison. Et en prison, il rencontre deux serviteurs de Pharaon, celui qui était chargé de servir le vin de Pharaon et celui qui était chargé, c'était un peu le boulanger du Pharaon. Et ils sont là en prison parce que ils ont un jour mal servi leur maître. Et alors Pharaon était fâché, il les a envoyés en prison. Et ils ont tous les deux un rêve. Cette nuit-là, ils ont un rêve. Et alors ils sont perturbés quand ils se lèvent le matin avec ce rêve. Et ils vont vers Joseph et ils disent « On sait que toi, tu peux expliquer les rêves. Est-ce que tu peux nous expliquer nos rêves ?» Et donc Joseph explique le rêve de ses deux serviteurs. Et dans ces rêves, il y en a un des serviteurs qui allait être restauré dans sa position, qui allait retrouver sa position, qui allait à nouveau servir Pharaon, et l'autre allait être pendu ou décapité. Et les choses arrivent comme Joseph avait interprété les rêves. Mais celui qui se retrouve à nouveau à côté de Pharaon oublie Joseph. Joseph lui avait demandé, il fait « Souviens-toi de moi quand tu seras de nouveau avec Pharaon. » Mais cette échanson, celui qui servait le vin, était tellement content de retrouver sa place qu'il a complètement oublié Joseph. Et ça a duré des années. Mais pendant ces années-là, Joseph a servi fidèlement dans la prison où il était, à tel point que le chef de la prison avait donné toute autorité sur les prisonniers à Joseph. Donc Joseph était devenu, encore une fois, numéro 2 là où il était. Et donc, après des années, tout ce travail que Joseph a fait dans l'ombre, il a servi fidèlement, porte leurs fruits. Pharaon a des rêves. Il voit ses rêves, vous pouvez lire dans la Bible, c'est des rêves vraiment particuliers. Il voit des vaches, des belles grosses vaches bien grasses. Il voit des moches vaches toutes maigres qui mangent les belles vaches et qui sont toujours aussi maigres. Et alors, il fait plusieurs rêves comme ça pendant la nuit. Et il se lève le matin, ça le perturbe, il n'arrête pas d'y penser. Et personne dans les serviteurs de Pharaon n'arrive à lui expliquer ses rêves. Et à ce moment-là, cet échanson, celui qui sert le vin, se souvient de Joseph et dit « Mais moi, je connais quelqu'un qui peut interpréter les rêves. » Et donc, il fait venir Joseph à Pharaon et Joseph explique les rêves de Pharaon et Joseph devient numéro 2 sur toute l'Égypte. C'est lui qui devient, il a toute l'autorité sur le pays d'Égypte. La seule personne qui est au-dessus de lui, c'est Pharaon. Et donc, on voit que tout ce travail pendant ces années où Joseph a servi fidèlement Potiphar et puis a été jeté en prison, il a servi fidèlement en prison, finalement l'amène à la tête du pays d'Égypte. Et à cette époque-là, quand Joseph arrive à la tête du pays d'Égypte, une énorme famine touche toute la région. Si on étudie les rêves qu'a fait Pharaon et que Joseph a interprété, on voit que pendant 7 ans, ils allaient avoir une énorme abondance et pendant 7 ans, ils allaient avoir une énorme famine. Et ça touchait toute la région, ce n'était pas seulement l'Égypte, c'était tous les pays aux alentours. Et donc, la famille de Joseph qui était restée au pays de Canaan, son père, ses frères, eux sont dans la famine, ils se retrouvent sans nourriture. Et donc, on voit, si on étudie encore plus et si on lit encore plus toute l'histoire, comment Dieu a utilisé les frères de Joseph qui étaient jaloux pour le jeter dans ce puits, pour le vendre comme esclave, comment Joseph a été serviteur de Potiphar, puis jeté en prison et enfin à la tête du pays de Pharaon pour pouvoir sauver de la famine sa famille et donc le peuple d'Israël. Ils sont sa famille est venue du pays de Canaan et ils sont restés en Égypte parce que là, il y avait de l'abondance, parce que là, il y avait Joseph, parce qu'ils étaient protégés, parce qu'on leur avait donné une belle partie du pays qui était abondante. Il y avait beaucoup de pâturage pour les troupeaux. Et donc, on voit comment Dieu a utilisé toutes ces circonstances pour sauver la famille de Joseph, pour sauver le peuple d'Israël. Et donc, des siècles plus tard, un autre pharaon vient, il y a plusieurs pharaons, un autre pharaon vient qui, lui, n'a jamais entendu parler de Joseph, il ne sait pas qui c'est Joseph. Et lui, il voit ce peuple de Juifs qui sont presque bientôt plus nombreux que les Égyptiens, et il commence à avoir peur, il se dit, ce peuple est bientôt plus nombreux que nous, si jamais un de nos ennemis vient nous faire la guerre, et s'il s'allie avec notre ennemi, nous, on est morts. Donc, ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit, on va les rendre esclaves, on va faire d'eux nos esclaves. Et donc, Pharaon met de dures tâches, de durs labeurs sur le peuple d'Israël. Et ils deviennent esclaves du peuple égyptien, du pays d'Égypte. Et ça dure pendant 400 ans. Et puis, après 400 ans, Dieu appelle Moïse pour sortir d'Égypte le peuple d'Israël. Dieu a dit, maintenant, ça suffit. Ils ont assez enduré. Maintenant, je vais les sortir du pays d'Égypte et je vais les conduire vers le pays que je leur ai promis, que j'ai promis à leur père. Et donc, on peut étudier tout ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails puisque l'histoire est assez longue. On voit comment Dieu utilise Moïse pour faire sortir le peuple du pays d'Égypte. On voit comment ils sortent avec beaucoup de richesses. On voit comment Dieu engloutit les Égyptiens dans la mer Rouge. Mais avant d'arriver aux portes du pays promis, voilà que le peuple passe 40 ans dans le désert. On sait toutes les raisons, parce que le peuple d'Israël était un peuple qui n'était jamais content. On leur donnait un doigt, ils voulaient tout le bras. On leur donnait bleu, ils voulaient rouge. On leur donnait vert, ils voulaient gris. C'est un peuple qui n'était jamais content. Ils voulaient de l'eau, on leur donnait de l'eau, mais ce n'était pas assez. Ils voulaient de la viande, on leur donnait de la viande, mais ce n'était pas assez parce que c'était toujours la même viande. C'est un peuple qui n'était jamais satisfait, jamais content. Donc non seulement Dieu les sort du pays d'Égypte d'une manière puissante, mais voilà qu'ils sont de nouveau pas contents parce que le moindre petit problème qui survient, voilà qu'ils disent « Ah, mais on préfère retourner en Égypte ». Donc c'est un peuple qui râle tout le temps, qui se plaint tout le temps. Et donc Dieu les punit en les faisant tourner pendant 40 ans dans le désert pour que tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui se sont rebellés jusqu'à ce que tous soient morts et que c'est leurs enfants qui prennent possession du pays. Et donc pendant 40 ans, ils vont tourner dans le désert. Et ils sont là, c'est comme si pendant 40 ans, ils tournaient devant la porte de l'église sans jamais pouvoir rentrer. Mais après tous ces siècles, en commençant par Joseph et en arrivant à ses 40 ans dans le désert, le meilleur restait à venir. Joseph a passé l'esclavage, la prison. Le peuple d'Israël a passé 400 ans d'esclavage en Égypte, 40 ans dans le désert. Et après tout ça, le meilleur était encore à venir. Parce qu'ils étaient enfin prêts à prendre possession du pays promis. Un deuxième exemple, je voudrais utiliser un deuxième exemple pour illustrer le message de ce matin, c'est les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, c'était des gens normaux, c'est des gens comme vous et moi, il y en a qui étaient pêcheurs, il y en a qui étaient inspecteurs des impôts. Je ne sais pas si vous aimez le vôtre, mais moi, moins je le vois, mieux je me porte. Il y avait des gens de toutes sortes que Jésus avait choisis dans ses disciples. Et ces disciples ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et ils ont vu Jésus enseigner la foule. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus guérir les aveugles. Ils ont vu Jésus guérir les boiteux. Ils l'ont vu ressusciter des morts. Ils l'ont vu chasser des esprits impurs. Ils l'ont vu multiplier des pains et des poissons pour nourrir une grande foule. Et donc pendant 3 ans et demi, tous les jours, ils voyaient Jésus faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de miracles. Et lorsque Jésus les a quittés, lorsque Jésus a été crucifié, Il est ressuscité, il a été encore avec eux pendant 40 jours. Et là, Jésus les quitte. Et peut-être que pour certains, ils se disaient, maintenant, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils se sont sûrement déjà posé la question lorsque Jésus est mort sur la croix, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas peut-être compris tout l'enseignement que Jésus leur avait donné. Ils n'avaient peut-être pas compris que Jésus devait ressusciter 3 jours après. Et donc peut-être déjà quand il est mort sur la croix, certains se sont dit, ok, maintenant c'est fini, qu'est-ce qu'on va faire? C'était bien beau tout ça, mais maintenant et demain, qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus ressuscite, Jésus est avec eux pendant 40 jours, et puis Jésus s'en va au ciel, et là à nouveau ils sont livrés à eux-mêmes. Certains vont dire, mais et maintenant, il est encore parti, on se retrouve encore tout seul, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour nous? Mais à ce moment critique où Jésus quitte les disciples, le meilleur était encore à venir. On voit après que Jésus est parti, que les disciples d'abord se réunissent selon l'ordre de Dieu dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte arrive, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commencent à prêcher l'évangile, ils commencent à prêcher la repentance, ils commencent à prêcher le baptême au nom de Jésus, ils commencent à prêcher la réception du Saint-Esprit. Et les gens commencent à être sauvés, les gens commencent à s'ajouter à l'Église. Et on voit les disciples qui, à leur tour, commencent à guérir les malades, à guérir les boiteux, à guérir les aveugles, à ressusciter les morts. Mais là, ils font la même chose que Jésus a fait. Mais là où le meilleur pour eux arrive, c'est que les disciples ont reçu quelque chose de plus. Ils ont reçu quelque chose que Jésus avait réservé pour après sa mort. Et ce quelque chose, c'est la puissance du Saint-Esprit. On voit les disciples qui commencent notamment d'abord à répandre l'évangile, mais aussi commencent à prier pour les gens, ils commencent à imposer les mains aux gens, et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ça, Jésus ne l'avait pas fait quand il était au milieu d'eux. Jésus n'avait pas rempli du Saint-Esprit les disciples. Il a attendu qu'il soit remonté au ciel pour commencer cette nouvelle œuvre, pour commencer ce meilleur qui était à venir pour les disciples. Et donc les disciples, on voit qu'ils ont amené l'évangile jusqu'en Europe, jusqu'à Rome, jusqu'à César, a reçu l'évangile. Et Jésus leur avait dit, on peut lire dans Jean 14, verset 12, Jésus leur dit, « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus devait quitter les disciples pour que les disciples entrent dans une nouvelle dimension, pour qu'ils entrent, pour qu'ils aillent un pas plus loin, pour qu'ils ne restent pas limités à ce qu'ils avaient vu Jésus faire, mais pour qu'eux puissent accomplir cette promesse que Jésus leur a donnée, qu'ils feront de plus grandes choses. Et on voit tout ce que les disciples ont accompli, tout ce que les apôtres ont accompli. Si on revient un petit peu plus près dans le temps, je vais revenir au mois de mars 1996. J'espère que ça fait... Tout le monde n'a pas compris. Ah. Mars 1996, le 17 mars 1996. Ce dimanche-là, je ne sais plus l'heure, je crois que c'était 17h ou 15h. C'était la première fois que dans cette ville, on avait réunion. C'est le jour où on a ouvert notre église. C'est le jour où on a eu la première réunion. Et pendant un petit peu plus d'un an, pour ceux qui se souviennent, on a loué cette salle ou ces salles au motel à Nivelles-Sud, de l'autre côté. Et donc, ça n'a pas toujours été facile. On a eu parfois des moments de galère. Parfois, on devait arriver le matin, là, on louait pour avoir une salle propre et prête. Et on arrivait, la salle n'était ni prête ni propre. Et puis finalement, après un peu plus d'un an à louer au motel, on a trouvé ce lieu où on est maintenant. Et ça fait 10 ans qu'on est là, tous ensemble, et qu'on se réunit, qu'on lutte. 12 ans, pardon. Je suis encore au 10e anniversaire, le temps passe trop vite. Ça fait 12 ans qu'on est là tous ensemble, on voit les gens venir, on voit les gens partir, on voit d'autres gens venir, d'autres gens partir. Et donc, c'est pas toujours évident. Mais le message que j'aimerais apporter ce matin avec les exemples que j'ai utilisés pour illustrer, c'est que le meilleur est encore à venir. Le meilleur est encore à venir. Malgré tout ce qu'on a traversé, on a eu des hauts, on a eu des bas, on a eu des moments merveilleux, on en aura encore. Mais le meilleur est encore devant nous. On n'a pas encore vu tout ce que Dieu veut faire pour nous. On n'a pas encore vu tout ce que Dieu veut accomplir dans cette église. On n'a pas encore vu tout ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. On est encore loin d'avoir vu tout ce que Dieu a préparé pour cette église. Loin de là. Ça fait 12 ans qu'on est là, mais on n'a encore rien vu, si je peux dire ça comme ça. Le meilleur est encore à venir. Et la question que j'aimerais qu'on puisse se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est pour moi ? On sait que le meilleur reste à venir pour cette église, mais et moi ? Et moi dans tout ça, et moi dans cette église, où est-ce que j'en suis ? Quelles sont les situations auxquelles peut-être je fais face ? Est-ce que certaines des situations auxquelles je fais face aujourd'hui, cette semaine, ce mois, les situations auxquelles j'ai fait face ou dans lesquelles je suis maintenant, est-ce que c'est des situations qui me donnent peut-être l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie de secours, il n'y a pas de lumière au fond du tunnel ? On a l'impression que c'est tout noir, qu'il n'y a aucune sortie. On a l'impression d'être enfermé entre quatre murs. Et si je me disais, et si on se disait qu'au milieu de cette situation qui me paraît peut-être impossible, le meilleur reste encore à venir. On a vu Joseph qui est passé dans le puits, qui est devenu esclave, qui était en prison et qui finit à la tête du pays d'Égypte. On voit les disciples qui servent Jésus, qui sont persécutés, mais qui répandent l'évangile jusqu'en Europe. On voit l'église de Nivelles, pas très grande, pas très nombreuse, là depuis un moment, mais et demain ? Qu'est-ce que nous réserve demain ? Qu'est-ce que Dieu nous réserve demain ? Pour voir et pour vivre ce meilleur qui est à venir, ce meilleur qui est devant nous, il y a un prix à payer. Joseph, il a été fidèle en toutes choses. Il a servi ses différents maîtres de manière intègre, de manière droite, de manière juste, sans faire de faux pas. Il a servi Potiphar, il a servi dans la prison pendant des années. On ne parle pas de 1 ou 2 ans, mais on parle de plusieurs années, peut-être même des dizaines d'années, avant que Joseph n'arrive à la tête du pays d'Égypte. Et donc il a dû servir fidèlement pendant toutes ces années, il a dû payer ce prix pendant très longtemps, avant qu'il puisse voir la porte, une porte s'ouvrir, pour qu'il puisse enfin voir l'accomplissement des rêves qu'il a fait tout au début dans son adolescence. On peut parler aussi de Josué et du peuple d'Israël. Ils ont dû un petit peu prendre le taureau par les cornes et ils ont dû mettre toute leur confiance en Dieu pour prendre possession du pays que Dieu leur avait promis. Ils ont dû se battre pour prendre possession de chaque ville. C'était ville après ville, bataille après bataille. Ils ont dû garder leur confiance, ils ont dû obéir aux ordres que Dieu leur donnait pour pouvoir prendre possession du pays. Les disciples aussi ont dû faire la même chose. Ils ont dû, quand Jésus les a quittés après sa résurrection, les disciples ont dû prendre sur eux et ils ont dû dire « Maintenant, il faut qu'on mette en pratique ce que Jésus nous a enseigné. » Et c'est à cause de ça que l'œuvre que Jésus a commencée a continué et s'est même amplifiée, s'est accrue et a touché tout, je vais dire presque le monde entier. C'est à cause d'eux, parce qu'ils se sont dit « On doit continuer, maintenant c'est à nous de faire, de continuer l'œuvre. » Ils ont pris sur eux et c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc, pour notre Église, le meilleur est encore à venir. Le meilleur est devant nous. Mais est-ce que je suis prêt à en payer le prix ? Le meilleur reste à venir pour ma vie, pour votre vie, pour chacune de nos vies en particulier. Il y a bien plus à vivre que ce qu'on a vécu jusque maintenant. Il y a bien plus que de venir le jeudi et le dimanche, ou de chanter dans la chorale pour ceux qui chantent la chorale, ou pour jouer de la musique pour le Seigneur, pour ceux qui jouent la musique. Il y a bien plus que ça à vivre. Dieu a bien plus pour nous. Le meilleur pour notre vie en Christ est devant nous. Mais est-ce que je suis prêt à en payer le prix? Est-ce que je suis prêt à payer le prix d'une consécration? Est-ce que je suis prêt à payer le prix d'une vie de prière assidue et fidèle? Est-ce que je suis prêt à payer le prix d'une vie de jeûne régulier? Est-ce que je suis prêt à payer le prix d'une vie d'engagement dans l'Église? Est-ce que je suis prêt à payer le prix d'être inclus, d'être engagé dans les activités de l'Église, dans les besoins de l'Église, de toutes sortes? L'Église a énormément de besoins. Il y a plein de choses qu'on doit faire. Il y a plein de choses qu'on veut faire. On a besoin de gens pour les faire. On a besoin de finances pour les faire. Est-ce que je suis prêt à payer le prix d'une vie de lecture de la Bible journalière? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix pour que le meilleur que Dieu a pour moi arrive, s'accomplisse dans ma vie? Pour que le meilleur que Dieu a pour cette Église s'accomplisse dans notre Église? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Depuis plusieurs semaines, on voit vraiment que Dieu agit au travers de tous les messages qu'on entend. Le pasteur a partagé sa vision qui est affichée ici au mur. Moi, j'ai rappuyé un petit peu il y a 3 semaines, il y a 2 semaines. Yeroun nous a amené encore un petit peu plus haut la semaine dernière. Et j'espère que je vais nous amener encore un tout petit peu plus haut encore aujourd'hui. J'espère que semaine après semaine, on voit vraiment que semaine après semaine, que message après message, Dieu nous amène un pas un petit peu plus haut. Chaque dimanche, on grimpe un petit peu plus haut pour arriver là où Dieu veut nous emmener, pour arriver à ce meilleur pour notre vie, pour notre Église, à ce meilleur qui est devant nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble. J'ai pas été très long, j'ai pas été très excité, j'ai pas été très extravagant comme la dernière fois, mais chaque message est différent et doit être apporté de manière différente. J'aimerais juste lire un verset dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20. L'apôtre dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je ne sais pas quelles sont vos visions pour l'Église, je ne sais pas quelles sont vos visions pour votre vie personnelle. Je ne sais pas quelles sont les choses que vous voulez accomplir cette année ou les prochaines années, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour l'Église. Je voudrais juste me concentrer sur l'Église. Donc je ne sais pas ce que vous avez envie d'accomplir dans l'Église cette année ou les prochaines années. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu peut faire en moi ou à travers moi, dans cette Église et pour cette Église, infiniment au-delà de tout ce que je peux imaginer, de tout ce que j'ai pu imaginer, de tout ce que j'ai envie de faire.